Bonjour à tous. On va revenir aujourd'hui sur les déclarations de Donald Trump qui dit ne pas s'engager à transmettre pacifiquement le pouvoir lors de l'élection présidentielle. Et s'il est donné perdant, il l'a redit hier et dans les rangs républicains. On va voir contente de rassurer alors que certains craignent une crise constitutionnelle. On en parle dans un instant avec Romain Lemaresquier. On fera le point également sur cette nouvelle nuit agitée dans les rues de Louisville, dans le Kentucky, où des centaines de personnes étaient de nouveau rassemblées hier soir pour dénoncer l'impunité, selon eux, des policiers qui ont tué en mars dernier l'afro-américaine Breonna Taylor, ce qui relance la colère dans une Amérique divisée. Et puis on va vous parler de la cancel culture ou culture de l'humiliation publique qui dénonce les individus qui sont perçus comme problématiques sur les réseaux sociaux afin de les en exclure. On démarre tout de suite avec la revue de presse des Amériques. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une ce vendredi, la polémique suscitée par Donald Trump qui a encore une fois réitéré qu'il ne pouvait garantir un transfert pacifique du pouvoir en cas de défaite lors de l'élection présidentielle.
Oui, Donald Trump l'avait déjà déclaré mercredi soir et hier selon le New York Times. Le président l'a encore répété alors que dans son camp, ses déclarations de la veille suscitaient déjà des réactions pour tenter de rassurer les Américains. Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat, considéré comme un allié du président, n'a par exemple pas hésité à contredire Donald Trump affirmant que le résultat de l'élection serait respecté et qu'une transition ordonnée serait réalisée. Mais Donald Trump n'en démord pas. Selon lui, ce sera certainement la Cour suprême qui aura le dernier mot, ce qui va à l'encontre des règles, rappelle le quotidien new-yorkais.
Et Romain, le Washington Post dit désormais craindre une crise institutionnelle aux États-Unis du fait des attaques répétées de Donald Trump.
Oui, le journal rappelle que depuis maintenant des mois, le président n'a de cesse de décrédibiliser l'élection du 3 novembre prochain et qu'il ne reconnaîtra certainement pas une défaite face au candidat démocrate Joe Biden, d'où cet empressement pour nommer un juge à la Cour suprême, une éventualité à laquelle se préparent les procureurs généraux des États démocrates, selon le Washington Post, puisque ces derniers seraient en train d'élaborer une stratégie commune pour savoir ce qu'il faudra faire si d'aventure Donald Trump refusait d'accepter le résultat.
On reste encore aux États-Unis avec cette nouvelle nuit agitée, je le disais, dans les rues de Louisville, dans le Kentucky. Des centaines de personnes ont dénoncé hier l'impunité, selon eux, des policiers qui ont tué l'afro-américaine Breonna Taylor.
Oui, une nouvelle nuit de manifestation en dépit du couvre-feu imposé la veille et qui débute à 21h. Environ un millier de manifestants se sont retrouvés et ont marché en direction d'une église dans le centre-ville, détaille le quotidien local Courrier Journal. Une église qui avait décidé d'ouvrir ses portes pour l'occasion. À 21h, les manifestants pacifiques, précise le journal, sont entrés dans le bâtiment alors que des forces de l'ordre étaient déployées dans les rues et autour de l'église. Après 2 heures de discussion, les policiers ont finalement laissé les manifestants repartir et rentrer chez eux. C'est l'image que l'on retiendra de cette nouvelle soirée de manifestation. Selon les autorités, 24 personnes ont tout de même été arrêtées car elles refusaient de se disperser. Un chiffre bien loin des plus de 120 arrestations qui avaient été enregistrées la veille, précise le quotidien.
On va à Cuba à présent, après la décision du président américain de nouvelles sanctions contre le tourisme cubain. Le secteur touristique est la troisième entrée de devises sur l'île, déjà largement mise à mal en 2019 par les sanctions américaines et tombée à zéro en cette période de pandémie. Ces mesures visent donc surtout, Domiti Piron, à couper les vivres du régime de la Havane et, selon les Cubains, à satisfaire l'électorat du sud de la Floride.
Les dollars américains ne doivent pas financer le régime d'oppression communiste, selon Donald Trump, qui annonce ces nouvelles sanctions. Les touristes américains qui voyageront désormais sur l'île ne pourront plus être hébergés dans les hôtels d'État ni ramenés dans leurs bagages du rhum ou des cigares. Des mesures qui auront un impact concret sur les finances cubaines puisque tous les hôtels de l'île ainsi que l'industrie du tabac et de l'alcool sont propriétés d'État. Aussi, participer à des événements sportifs, des conférences, séminaires ou expositions sur l'île sera désormais soumis à autorisation pour les citoyens américains. Ces annonces n'auront pour l'instant aucune conséquence, les frontières cubaines étant fermées pour cause de coronavirus, mais elles interviennent à quelques semaines de l'élection américaine. Alors pour Cuba, c'est un évident cadeau à l'électorat du sud de la Floride de Donald Trump, où réside la majorité des cubano-américains, et pour satisfaire, selon la presse officielle, les mercenaires et vedettes de la politique anti-cubaine de Miami. Des annonces faites également quelques jours après le discours du président cubain Miguel Díaz-Canel à l'Assemblée générale des Nations Unies, durant lequel il dénonçait l'intensification et l'agressivité du blocus américain. Dimitri Piron, La Havane, RFI.
Direction la Colombie, Romain, avec la mort d'une transsexuelle tuée par des militaires alors qu'elle circulait avec son compagnon sur une route du sud-ouest du pays.
Oui, une nouvelle bavure, cette fois-ci de la part des militaires. Une information qui fait la une de toute la presse colombienne. Quelques semaines après la mort de Jorge Ordóñez, un avocat décédé à Bogota suite à une bavure policière qui avait provoqué des manifestations sans précédent. Selon le récit du compagnon de Juliana Giraldo, que l'on peut lire dans les pages d'El Tiempo, le couple roulait sur une route lorsque des militaires sont apparus au croisement d'un autre chemin. Ils se sont arrêtés comme le leur demandaient les militaires, ce qui n'a pas empêché un soldat d'ouvrir le feu, tuant Juliana. Le militaire en question a été placé en détention et une enquête est ouverte. Juliana Ordóñez était ce qu'il m'était arrivé de mieux, explique son compagnon. Un nouvel exemple de la violence à l'encontre des transsexuels, dénonce la revue Semana, une communauté qui voit les actes de violence se multiplier ces dernières années.
En Haïti, Romain, la presse réagit après le discours du président Jovenel Moïse lors de la 75e Assemblée Générale de l'ONU.
Oui, une Assemblée Générale virtuelle, hein, rappelle le Nouvelliste. Le président, détaille le quotidien, a appelé les bailleurs de fonds internationaux à laisser Haïti choisir ses priorités dans la réalisation des projets qu'il finance. Jovenel Moïse a reconnu ses responsabilités dans l'établissement d'un climat de paix favorable au développement. Comme solution, écrit le Nouvelliste, il s'est engagé à organiser des élections, je cite, « crédibles et démocratiques » dans le pays sans pour autant donner de date. Jovenel Moïse.
J'ai pleinement conscience de la responsabilité qui est mienne de veiller à l'établissement des conditions essentielles pour garantir la sécurité, la paix, la stabilité et le développement à long terme d'Haïti. Mon pays qui se heurte depuis quelques décennies à une crise socio-économique complexe et à une polarisation excessive et violente de la classe politique ne pourra y faire face seul. La République d'Haïti se relèvera, mais avec un appui durable, cohérent, efficace et bien coordonné de la communauté internationale. Aujourd'hui, la République d'Haïti est amputée d'une institution indispensable à la bonne marche de la démocratie, le Parlement. Nous avons mis en place un nouveau conseil électoral provisoire pour réaliser des élections crédibles, transparentes, inclusives, libres, honnêtes et démocratiques.
Jovenel Moïse, le président haïtien, lors de son discours virtuel devant la 75e Assemblée Générale de l'ONU.
Merci Romain Lemaresquier pour cette revue de presse des Amériques. On va se rendre maintenant au Chili. Elles étaient fermées depuis 11 mois. Les deux dernières stations de métro de Santiago, endommagées lors des manifestations qui avaient tourné à l'émeute en octobre dernier, vont rouvrir ce vendredi. La mobilisation avait commencé contre la hausse du prix des transports publics et d'après les autorités, une centaine de stations de métro au total avaient été vandalisées ou incendiées pendant les premiers jours du mouvement social. Les travaux de réparation ont coûté pas loin de 250 millions de dollars. C'est ce qu'a confirmé cette semaine le président chilien Sébastien Piñera. Précision de notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine.
118 stations sur 136 dans la région de Santiago ont été vandalisées à divers degrés lors des premiers jours du mouvement social en octobre dernier. Des manifestations lancées par les lycéens et étudiants qui ouvraient les portes du métro et rendaient hors d'usage les tourniquets pour laisser passer les passagers sans payer. Une mobilisation en réaction à la hausse du prix des transports très cher dans la capitale par rapport aux revenus des Chiliens. Mais dans les heures et les jours qui ont suivi, certaines stations ont subi des dégâts importants, voire ont été incendiées et des installations électriques ont été sabotées. 6 mois après le début du mouvement social, il restait encore une vingtaine de stations fermées, principalement dans le sud et l'ouest de la capitale. Le gouvernement et la direction de l'entreprise publique assurent que les travaux de réparation menés cette année ont obligé à retarder d'un an l'ouverture de nouvelles lignes de métro, désormais prévues pour 2028. Le métro de Santiago est le plus étendu d'Amérique du Sud. Et l'an dernier, avant le mouvement social et la pandémie de Covid-19, il transportait 2,5 millions de passagers chaque jour. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première présenté par Tiziana Maron. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne.
Et on débute aujourd'hui avec Goldor, l'une des plus grosses sociétés minières de Guyane, devant la justice.
Oui Anne, hier matin, 3 associés co-gérants de la société Goldor ont comparu devant la chambre détachée du tribunal correctionnel de Saint-Laurent-du-Maroni pour répondre de faits de pollution sur une mine d'or. Après 4 heures d'audience, le parquet a requis une peine de 80 000 euros d'amende, dont 40 000 à assorti de sursis. Les faits remontent à juillet 2018. Une pollution record est constatée au niveau d'une crique sur la commune de Manao, où se trouve le chantier d'exploitation aurifère. La réaction à l'issue de l'audience de maître Mabil Sébastien, avocat de la partie civile. Il représente l'Office national des forêts. Il est au micro Guyane La Première d'Éric Léon.
On attend qu'une condamnation exemplaire soit rendue, puisque cette pollution est caractérisée dans tous ses éléments. On a des faits qui sont répétés, puisqu'on apporte un élément nouveau aujourd'hui, qui est le fait que une pollution similaire, mais qu'un peu plus faible, avait été constatée au mois d'avril 2018, soit 4 mois avant celle qui a été constatée en août 2018, pour lequel le tribunal est saisi. Le manquement principal qui est reproché aujourd'hui au gérant de la société Goldor, c'est d'avoir procédé à une réhabilitation du site en saison des pluies, alors que la réhabilitation, selon l'arrêté préfectoral, doit être exclusivement réalisée en saison sèche pour justement prévenir et éviter ce qui s'est réalisé ce jour-là.
Et maître Jean-Yves Marco Derouard est lui l'avocat de la société minière. Il conteste les faits, c'est surtout la méthode qui pose problème. Il explique au micro d'Éric Léon.
La peine requise, d'abord, elle est complètement démesurée, ça c'est évident, mais ce n'est pas le débat. Mon débat, et le débat de Goldor, c'est de dire et de réaffirmer qu'il n'y a eu aucune pollution, dans la mesure où les prélèvements ont été effectués de manière tout à fait folklorique. Si on racle le fond, effectivement, on va trouver beaucoup de matière en suspension. Si on produit des prélèvements qui ont été prélevés dans les règles, à savoir 30 cm de la surface et au moins 50 cm du fond, je suis d'ailleurs persuadé qu'on n'aurait pas les mêmes résultats.
La Guadeloupe à présent placée en alerte maximale Covid-19. Hier, le préfet a annoncé des mesures spécifiques pour l'archipel. L'interdiction à certaines heures de l'accès aux plages, aux rivières et à d'autres plans d'eau susceptibles de recueillir des regroupements festifs, ainsi que le rétablissement du motif impérieux pour les voyages entre la Guadeloupe, la Martinique et les îles du Nord. Des mesures strictement liées à la capacité d'accueil du centre hospitalier et des autres établissements de santé du département. La direction de l'hôpital vient d'ouvrir 36 lits supplémentaires Covid. 8 d'entre eux sont des lits de réanimation et ils seront gérés dès lundi par une équipe de renfort du service de santé des armées. Et puis, avant de vous quitter, un projet qui a demandé un travail de longue haleine pour convaincre et aboutir. Un centre d'accueil de femmes victimes de violences conjugales va enfin voir le jour dans le Nord Caraïbe à Martinique. Il aura une capacité d'accueil de 60 personnes. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Bonne journée.
Bonne journée. Merci à vous, Tiziana Maron, pour ce journal La Première Outre-mer. Et on repart aux États-Unis pour parler d'un phénomène qui est né là-bas, la cancel culture, cette pratique qui prône le boycott de personnes ayant eu des comportements condamnables ou des propos répréhensibles. Une pratique qui serait apparue en 2015 et qui est défendue par des militants féministes, anti-homophobes, anticolonialistes ou encore antiracistes qui utilisent les réseaux sociaux pour organiser des campagnes et obtenir l'expulsion de leurs cibles ou leur licenciement par leur employeur. Une pratique controversée, dénoncée principalement par les conservateurs, mais aussi par certaines voix progressistes. Le décryptage de Perrine Jean.
Harvey Weinstein, Roman Polanski, Woody Allen, ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont été la cible de campagnes de dénonciation sur les réseaux sociaux suite à des accusations de viol ou d'agression sexuelle. Ces personnes ont fait l'expérience de la cancel culture, une pratique qui s'est développée aux États-Unis à l'initiative de mouvements tels que MeToo et Black Lives Matter. La sociologue Gisèle Sapiro nous explique de quoi il s'agit.
La cancel culture veut dire littéralement culture d'annulation ou de suppression. Il s'agit en fait d'une sanction contre un acte moralement répréhensible, principalement de racisme, de sexisme, d'agression sexuelle. Alors cette suppression, elle peut aussi concerner les monuments et les œuvres du passé, y compris les classiques. Et ça peut par ailleurs toucher l'université avec la décision de ne plus citer un auteur pour les mêmes raisons.
Sarah, la vingtaine, vit à Baltimore, aux États-Unis, militante au sein de Black Lives Matter et MeToo. Elle soutient le mouvement de la cancel culture.
They end up being sexual assaulters and abusers. And for that reason,
les gens qui sont des agresseurs et des violeurs, nous devons les boycotter, moi et les autres femmes principalement. Les hommes ne comprennent pas ce problème. Ils ne comprennent pas les dynamiques de pouvoir contre les femmes. C'est pourquoi ce sont généralement les femmes que l'on retrouve en première ligne quand il s'agit d'agressions sexuelles et de viols.
When it comes to the sexual abuse and assaulters' situations.
La cancel culture peut appeler au simple boycott sur les réseaux sociaux, voire au licenciement des personnes ciblées par ces campagnes. Se disant victime de la cancel culture, une éditorialiste du New York Times a, elle, choisi de démissionner. Barry Weiss avait été embauché au New York Times il y a 3 ans, au nom d'une plus grande diversité d'opinions. Mais ses articles à contre-courant étaient violemment critiqués sur les réseaux sociaux et par certains de ses collègues. Dans une tribune dans le journal Harper's Magazine, elle a dénoncé avec 150 personnalités ce qu'ils appellent une entrave à la liberté d'expression. Alors, la cancel culture est-elle une nouvelle dictature de l'opinion imposée par l'extrême gauche américaine? C'est le raccourci que fait Donald Trump.
Nous ne laisserons jamais une foule en colère démolir nos statues, effacer notre histoire, endoctriner nos enfants ou piétiner nos libertés. Nous sauvegarderons nos valeurs, nos traditions, nos coutumes et nos croyances.
Sarah a conscience des critiques et des possibles dérives liées à la cancel culture, mais pour elle, les choses ne sont pas si simples.
Quand on parle de la cancel culture, c'est perçu comme quelque chose de plutôt négatif. On va dire, vous n'avez pas de patience, vous êtes très immature. On va nous dire que dès que quelqu'un fait une erreur ou a un comportement problématique, on encourage tout le monde à le détester. Ce n'est généralement pas ce qui se passe. On les exclut, on les dénonce et ils ne prennent jamais leurs responsabilités. Ils ne s'excusent jamais. Donc à ce stade, on les boycotte. Beaucoup de ces personnes sont protégées par l'État. Ces gens font entrave à la justice. Ils empêchent la justice de fonctionner. Ce sont généralement des décideurs et ils sont très influents également. Ils ont du pouvoir. Ils trouvent toujours un moyen de vous faire taire et pour cette raison, il est très difficile de boycotter ces personnes.
Pour la sociologue Gisèle Sapiro, la cancel culture va bien au-delà du simple boycott d'une personne avec laquelle on ne serait pas d'accord. Il s'agit de dénoncer, entre autres, des problèmes de racisme et de sexisme systémique. Gisèle Sapiro parle d'une lutte symbolique.
Les réseaux sociaux, c'est un espace effectivement qui permet à des voix qui n'existent pas dans l'espace public de s'exprimer. La cancel culture, c'est une censure morale qui n'opère pas par la force de la loi. C'est la décision libre de certains groupes minorisés, dominés, qui promeuvent une cause et qui utilisent cette arme symbolique contre la violence symbolique dont ils sont l'objet. Les réseaux sociaux sont un lieu où toutes ces voix peuvent s'exprimer à égalité, ce qui n'est pas le cas de l'espace public.
Si nous prenons l'exemple du viol, serait le crime le moins puni aux États-Unis. En 2018, seulement 0,7% des plaintes pour viol avaient abouti à une condamnation. Face à un sentiment de discrimination de la part des institutions, la cancel culture permettrait aux victimes de se réapproprier la parole, selon Gisèle Sapiro.
Dans ce mouvement, la parole est aux victimes, souvent discriminées devant la loi d'ailleurs, et leur voix souvent ne compte moins que celle de leurs agresseurs, surtout lorsqu'il s'agit de célébrités ou de gens puissants qui ont soit du capital symbolique et souvent aussi un capital social conséquent, un capital économique, et qui ont les moyens donc de se défendre. Et la loi états-unienne, elle permet même de réparer les abus sexuels, réparer entre guillemets, par une indemnisation financière. Hein. Ça a été le cas de Polanski avec sa victime Samantha Gamer. C'est à l'accusé de prouver sa bonne foi ou son innocence.
La cancel culture suscite de plus en plus de critiques. 44% de l'électorat américain désapprouverait ces pratiques. Cependant, 55% des 18-34 ans reconnaissent y avoir déjà pris part. Une majorité des sondés, 53%, estiment que ceux qui tiennent des propos offensants en public doivent s'attendre à des conséquences sociales.
Un dossier signé Perrine Jean. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi 15h10, heure de Paris. Restez avec nous sur la Radio du Monde. Dans un instant, votre émission sur la francophonie avec Pascal Paradou.
RFI, la sélection du mois.
Passer les frontières en marche en la nuit.
Charlie Couture.
Et là-bas, il était venu ici. Il n'avait pas une chance, c'était ça ou rien. Il y a des gars qui n'ont pas de chance et qui sont nés trop loin.
Protosi.
Like royalty, royalty.
Rufus Wainwright. Lucky Day et Chronix.
can university graduate, still she got a lot of debts.
RFI.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Chez les Véraux, on est charcutier de père en fils. C'est une histoire de famille, de saucisses en terrine, en boudin, en pâté en croûte, certains de la taille d'un incroyable oreiller, de quenelle en graton. La charcuterie s'est emportée avec soi des goûts d'ici, de là, de chez soi, forcément réconfortant, un art, ce samedi à 16h10 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence de Navy sur RFI.